Mon intervention était prévue sous la forme d'un atelier. Bon, on va essayer en une heure et demie de faire une sorte d'hybridation, ce qu'on essaie de faire entre écriture et photographie à l'école. Voilà. Donc, par contre, par rapport à ce qui était annoncé, donc je vais diminuer la focale en la pointant plus précisément sur la relation image et aussi bien fixe que mobile, donc la vidéo et la photographie, et l'écriture. Bon, alors, l'idée, c'était de repointer, de diminuer la focale sur l'écriture, sur les relations entre l'écriture et l'image aussi bien fixe que mobile. Et je voulais essayer de prendre deux pistes de réflexion qui sont menées à l'école. Donc, le projet que j'ai initié en 2005 avec l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, et un second volet, mais je pense que j'aurai pas le temps de l'aborder, à travers les expositions comme support de diffusion des savoirs, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Voilà. Donc il y avait des expositions avec Denis Roche, Stanislas Amand ou le projet Les légumes verts. Mais on fera l'impasse sur cette partie. Donc pour revenir sur la partie avec l'école de la photographie d'Arles, donc ça a été un mariage un peu impossible au départ parce que donc il y a une école qui relève du ministère de la Culture, l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, qui a une formation type école d'art et en plus qui est la seule école en France autour de la photographie, alors qu'il y a plus de 22 écoles des beaux-arts et de plus en plus, tous presque maintenant ont un département lié à la photographie. Donc elle a aussi ses particularités, elle ne forme pas forcément des artistes, que des artistes, mais aussi des conservateurs, des restaurateurs, des responsables de collection, comme au musée du Quai Branly, qui est une ancienne de l'école de la photo d'Arles. Et notre école, où déjà les promotions sont très différentes. Alors il y a une similarité en termes de génération. Ils ont le même âge, donc ça c'est intéressant parce que le premier point commun c'est l'altérité pour moi et le frottement, voilà. Et de là va naître quelque chose. Mais l'autre difficulté c'est que là-bas ce sont des promotions de 30 élèves, donc il n'y a que 100 élèves dans cette école. Alors que vous voyez notre école en termes de sociologie des organisations, on est déjà plus de 1000, je sais plus combien. Mais donc et la difficulté, ça a été aussi que nous nos étudiants sont plutôt de toutes disciplines confondues, donc des philosophes, des lettres modernes, des lettres classiques ou des géographes ou des historiens et toute année confondue et aussi bien des normaliens que des éditeurs libres. Que aussi des étudiants étrangers. De toute façon, dans les trois éditions qu'on a menées, vous verrez, il y a Laura Cabarello qui est d'Argentine, il y a Sarah Reyeb qui est de Tunisie. Donc c'est aussi l'idée de c'est le croisement, l'hybridation, mais juste dans le sens le plus large possible et ouvrir les horizons. Donc la première expérience a été duel. Alors moi j'ai pas la maquette là, j'ai que le livre parce qu'on a essuyé les plâtres en 2005. Mais par contre je vais vous laisser entendre le directeur de l'École nationale supérieure de la photographie, alors qui a changé maintenant c'est Rémi Fenzi, mais à l'époque c'était Patrick Talbot. Alors je vais essayer. Parce que pareil, un certain nombre de choses sont mises en ligne sur le site de l'école. Donc là, c'était en 2007 à la fin, parce que c'est des projets pédagogiques sur 2 ans. Donc, pour vous expliquer le projet, donc en 2005, les deux écoles signent une convention de travail et je suis mandaté pour mettre en place un projet. Donc, je fais appel aux forces vives de l'école, donc un laboratoire de recherche qui est à l'époque le centre d'études poétiques qui n'existe plus maintenant, qui a été remplacé par le centre d'études et de recherche comparé sur la création, mais c'est depuis 2010. Mais à l'époque, c'était le centre d'études poétiques, et à sa tête était un poète et un universitaire, Jean-Marie Delaize, avec un style d'écriture particulier qui prône la littéralité, voilà. Et en même temps, sur les, ce que disait Olivier Faron hier, le directeur de l'école, sur les enseignements artistiques qui ont commencé en 2004 à l'école, et donc sur l'histoire des arts, voilà, où on avait à l'époque, donc les enseignants en histoire des arts, on voyait la difficulté aussi même dans notre école, change assez souvent. C'était Marie Gautron, la première édition, voilà. Donc je leur ai demandé de réfléchir à mettre en place un dispositif, oui, pédagogique. De travail avec des étudiants à Arles pour créer ensemble, pas être les commentateurs des images, mais vraiment que je vais pas dire écrivain, je vais dire écrivant, voilà, parce que les nôtres sont aussi bien des écrivains que des poètes ou des gens qui réfléchissent à partir des mots. Donc de construire un dispositif. Donc on a voilà. Et du côté d'Arles, au niveau de l'équipe, c'est deux enseignants, artistes, photographes. Donc c'était Christian Milovanov. Alors pareil, on change parce qu'on veut toujours rester dans l'expérimentation et ne jamais avoir un modèle bien calé et routinier. Et donc l'idée, c'était donc il y avait Christian Milovanov et Jean-Luc Amand-Fournier sur la première édition. Donc l'idée, c'est que nous, de notre côté, on prépare nos élèves, alors on les sélectionne, on fait un appel dans l'école, tous les élèves intéressés pour participer à ce projet. Ils viennent et on leur explique le projet, et après on les fait travailler sur, déjà réfléchir sur l'image. Donc ils ont un certain nombre de livres à lire sur la réflexion sur l'image. Donc généralement, elle est calquée sur le concours d'entrée à l'école de la photographie d'Arles, plus avec nos livres. Et ils présentent leur ouvrage. Puis après, ils ont un travail d'écriture sur une image qui nous permet après de nous de sélectionner, parce que généralement, ils sont entre 15 et 20 ou même 30 des fois. Donc pour permettre, parce que ce que vous allez voir, c'est que nous, on n'a pas une thématique et on fait pas de sélection. On fait une sélection sur les possibles. Sur les possibles de rencontres qui vont pouvoir s'opérer entre les photographes et nos élèves. Donc on garde aussi bien des philosophes que des lettres modernes, que des géographes, comme je vous disais tout à l'heure, et avec des styles d'écriture différents sur l'image. Et après, généralement, c'est les trois premiers mois de l'année universitaire, et en janvier-février, ils rencontrent les photographes à Arles. Nous, ils se présentent en 10 minutes. Alors, ils disent dans quelle discipline ils sont, quelle année, sur quoi ils travaillent, sur leur master. Et aussi leur hobby, parce que c'est important. Vous verrez, il y a des cas. Nous, par exemple, hier, on était sur l'image de la danse. Et par exemple, on avait un lettre moderne qui faisait beaucoup de danse et qui et c'était important parce qu'il s'est greffé avec greffé entre guillemets avec une photographe qui elle réfléchit sur l'image mais qui ne fait pas de photographie. Elle fait des empreintes avec des fougères, dans toutes toute l'historique de la photographie qui est une empreinte à l'origine. Donc et les photographes présentent leurs travaux. Alors eux, par contre, ils sont vraiment par année. C'est l'équipe pédagogique d'Arles qui décide sur les 30 qui participera à ce projet. Donc alors les deux premières années, Duel et 282 km x 2, c'était avec les troisième année. Oui, alors je vais le montrer. Pardon, j'en ai pas assez de Duel. Donc Duel est publié en 2007. Parce que je voulais aller au terme du processus avant de vous montrer l'ouvrage, parce que l'ouvrage n'est qu'un territoire qu'ils investissent. Parce qu'ils doivent investir deux territoires. Un ouvrage où ils auront une maquette de 10 pages à concevoir ensemble, le photographe et l'écrivain. Et un second territoire, et ça c'est l'objectif de la seconde année de travail en commun, c'est une exposition. Une exposition qui, pour maintenir un niveau quand même, se fait dans un lieu confirmé, hors les murs. Donc Duel a été montré au Fonds Régional d'Art Contemporain à Marseille, à la Vieille Charité. Mais on alterne aussi les lieux de monstration d'art plastique, art contemporain et de l'écriture. Donc Trafic, qui est la troisième édition, a été montré à l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines, à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen. Voilà. Donc, le premier territoire, dont c'est un ouvrage, il travaille, mais avant de partir dans l'idée de territoire, ils doivent. Voilà, je vais quand même essayer de structurer mon propos, malgré le temps voilà, qui diminue. Mais l'idée, c'est que. Voilà, voilà, je vais vous expliquer le dispositif et après les territoires et comment est-ce que ça peut apporter pour nos élèves et pour les élèves de l'école d'Arles. C'est donc, ils se rencontrent, ils se rencontrent, il y a une présentation des travaux des photographes. Donc je vous disais, c'était des troisième années, les deux premières éditions. Et la troisième édition, parce que voilà, le projet évolue, hein, est fait avec des deuxièmes années pour permettre aussi la création d'un corpus ensemble. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec les troisièmes années, le corpus était quasiment décidé déjà par les photographes. Ils avaient déjà fait un travail. Donc il y avait un travail de sélection, d'adaptation après au niveau de l'écriture et de la photographie et de l'hybridation. Alors que là, dans le dernier à distance, qui est le quatrième, mais qui n'existe pas encore parce qu'il est virtuel, c'est à partir des deuxièmes années. Après, donc, nos élèves regardent leurs travaux, etc., et prennent contact ensemble déjà. Et 15 jours après, leurs élèves, les photographes, viennent ici, et c'est les nôtres qui présentent des travaux. Alors c'est beaucoup plus dur parce que les nôtres ne sont pas des créateurs. Donc ils présentent que quoi ? Ils présentent leur travail de recherche. Ils présentent un travail d'écriture sur une image. Ils se présentent d'une certaine façon. Et par exemple, dans le cas de Duel, il y a Valérie Hénault qui était philosophe, qui travaillait sur la Shoah, à partir des thèses de Didier Huberman, de Jacques Rancière, etc. Vous voyez, il y a eu une affinité qui va se faire avec Léa Ouzan, qui va photographier Auschwitz et qui va réfléchir à travers de la photographie à la patrimonialisation d'Auschwitz avec les trois sites, Birkenau, Auschwitz et Monowice. Et comment les Polonais arrivent à s'en sortir avec ce lourd patrimoine, on va dire. Arrivent à s'en sortir, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, ils se rencontrent. Et vous voyez, c'est vrai que ça vient aussi de, ce sont des élèves de l'enseignement supérieur, et puis bon, ils ont quand même un bon niveau. Donc, il y a une très grande latitude de liberté dans ce projet. Il n'y a pas de thématique imposée. Les titres viennent après. On ne va pas dire on travaille sur telle thématique. Voilà, on ouvre les horizons. Et l'autre chose, c'est que c'est eux qui vont décider avec qui ils vont travailler. Voilà. Donc, au bout de la seconde séance de rencontre, ils doivent se coopter, on va dire. Qui veut travailler avec qui ? Voilà. Alors, voilà. Et après, il y a tout un processus de travail ensemble qui est encadré après par l'équipe du Centre d'études poétiques, des enseignements artistiques. Et ils ont donc l'idée... c'est qu'ils ont un temps, ils ont une exposition jalon. 3 mois après, alors voilà, c'est créé aussi par la gestion des contraintes. Hein, voilà, ils ne sont jamais contents parce que 3 mois après, c'est trop court, mais c'est fait pour, d'une certaine façon. Et ils doivent restituer un travail qu'ils ont fait en commun. Donc nous, on appelle ça une partition. Parce que c'est l'esprit d'une partition. C'est comment ils vont pouvoir, comment le photographe... va accepter que qu'un autre élève regarde son travail, puisse écrire dessus, mais aussi sur l'image, et vice versa, que l'image aussi peut être les mots, par exemple, certains photographes caviardent les écrits de nos élèves, donc enlèvent des mots. Donc vous voyez, c'est vraiment des frottements, des altérités, alors qui sont positives, qui se passent bien, qui peuvent être heureuses, mais qui peuvent être aussi malheureuses. Des fois, il y a des frottements terribles entre les élèves qui s'entendent pas, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, voilà. Mais ça fait partie du projet. Donc voilà, il y a cette exposition jalon, et à la fin de l'année, ils doivent rendre une maquette de 10 pages qu'ils ont fait ensemble. Alors, on les aide hein, dans tout le dispositif. Ils ont une séance avec un typographe qui va leur expliquer, parce que ils savent pas les types de police, les types de la taille, le choix, un certain nombre d'éléments qui leur permettent de faire des mises en page. Et ils ont ces 10 pages. Donc, c'est ce qui donne ce premier territoire, voilà. Donc, vous voyez, ce premier territoire, c'est l'association des 10. Ben là, c'était une relation 1-1. Chaque binôme, il y avait un photographe, un écrivain. Donc, ça donne duel, voilà. On l'avait baptisé duel à l'époque, mais pas forcément dans le sens négatif, l'affrontement. Aussi duel, parce que c'est un travail à deux. Donc, c'est le premier territoire. Mais ils doivent rester après dans l'esprit de cette partition et à réfléchir après à la mise en espace. Alors, il est beaucoup plus facile pour un photographe de mettre en espace une photographie. Mais mettre en place, spatialiser un écrit, ça devient plus compliqué c'est plus compliqué. Donc, il y a encore tout un travail de réflexion et de discussion pour que chaque binôme soient d'accord pour spatialiser leur partition. Donc, à titre d'exemple, je vais parler juste du couple Olivier Normand-Isabelle Giovacchini. Donc, Olivier Normand est ce fameux élève en lettres modernes, mais maintenant qui est danseur au Centre chorégraphique de Montpellier. Et Isabelle Giovacchini qui fait de la photographie, mais qui ne fait pas d'image. Ou alors, elle fait des images, mais à travers... moi, j'ai pas d'image et ça s'ouvre pas. S'il faudrait mettre réel, en vérité, c'est parce qu'il y a un logiciel qu'on devrait télécharger, mais là, j'ai pas eu le temps de le préparer. Tant pis. Mais tout simplement, lors de la mise en espace au Fonds Régional d'Art Contemporain, Isabelle Giovacchini avait mis ses œuvres, dont ces empreintes de fougères sur un rouleau de papier, par exemple, de papier peint. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Mais il y en a peut-être un certain... Oui, vous le voyez. Voilà. Et Olivier Normand, lui, a décidé d'expliquer son travail. Et donc, il a mis son numéro de téléphone portable à côté de chaque œuvre d'Isabelle Giovacchini. Et donc, il s'est plié au jeu que chaque visiteur qui appelait sur son téléphone portable et qui demandait une explication, donc pendant les heures ouvrables du Fonds Régional d'Art Contemporain, il a répondu. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une très grande différence parce qu'à l'intérieur du livre, c'est plutôt, vous voyez, une mise en partition. Il y a un jeu sur les flèches. Là, par exemple, on a... Parce que là, Isabelle Giovacchini... coince un insecte dans un projecteur de diapositive et c'est cette image qui est projetée. Et donc lui, il a fait toute une chorégraphie à part des cercles autour de son image dans la partition. Mais je vais refermer cet ouvrage parce que les autres, je les ai en PDF. C'était la première partition et donc vous voyez, on a cogité après parce que ça a été... Il y a eu beaucoup d'imprévus, d'impondérables, mais on était assez contents parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que aussi bien pour les photographes déjà, ils étaient un peu interpellés parce que des élèves en sciences humaines, parce que moi je parle de projet avant que l'école ne devienne ENS de Lyon, parce que je suis depuis 10 ans dans une école qui s'appelle École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines. Depuis un an, je suis dans une école qui va de la chimie, et je suis content parce que pour moi, la photographie est aussi entre l'art et la science depuis ses origines, donc je suis content qu'il y ait des chimistes et d'autres apports. Mais revenons à l'école d'Arles, les photographes étaient assez interpellés parce que ils sont dans leur cocon, en groupe dans cette école, ils avancent en fonction des promotions, etc. Mais quand un philosophe vient et dit oui, mais finalement t'as pas lu Georges Didier Huberman ou voilà. La photographe se remet en question et en plus avec une élève de son âge. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est pas dans une relation maître-disciple d'une certaine façon. C'est voilà, elle a son alter ego du même âge qui va lui dire bon bah t'as posé ta chambre parce que Léa Ouzan travaille à la chambre et elle photographie de manière banale, mais des choses qui ne sont pas si banales parce que c'est assez édifiant parce qu'elle pointe à travers Auschwitz par exemple, complète ce touristique Bah, par exemple, il y a une image, je ne l'ai pas là, mais dans Duel, il y a une image assez, voilà, c'est tout simplement cette image, hot dog, mais c'est un baraquement, voilà, où les juifs se déshabillaient, voilà. Bon, ce n'était pas encore, voilà. Et donc, ils l'ont transformé en vente de hot dog, voilà. Donc, c'est, voilà, elles prennent vraiment l'obscène et l'intolérable, voilà, mais... voilà. Et donc, après, vous voyez le travail de l'élève, de Léa Ouzan, de Valérie Hinault, ça a été, par exemple, de reprendre des morceaux de phrases de Georges Didier Huberman et de les remettre autour. Et par exemple, là, elle met « Le présent est une prison qui empêche mon imagination de faire revivre ce qui n'est plus que trace. » Donc, il y a tout un travail de réflexion et de... Parce que, voilà, j'ai accepté la proposition parce qu'on est dans la circulation des images. Mais cette circulation des images est aussi liée à une circulation des écrits d'une certaine façon. C'est que les deux, oui, les deux s'interpénètrent, se jouent en permanence. Donc, et donc on a, donc là c'était Duel, et on a renouvelé l'opération, avec une nouvelle proposition. Et qui a été les titres viennent après, mais ce sont pareil, ce sont les élèves qui les choisissent pour trouver le plus petit commun dénominateur de parce que en vérité c'est des poupées gigognes. On a une partition, on en a 10, mais après ils doivent faire deux territoires qui doivent avoir un sens. Donc, un ouvrage et une exposition. Donc, ils doivent intégrer leurs propositions individuelles faites à quatre mains. Dans une exposition collective, donc aussi à intégrer un groupe d'une certaine façon, à travers ce projet. Donc là, c'était Duel, parce que c'était, voilà. Mais la seconde édition, nos amis photographes ont corsé le jeu, ils n'ont pas voulu mettre le même nombre. Donc on s'est retrouvés sur une proposition 18. Si ma mémoire se rappelle bien. Donc, il y avait 10 élèves de chez nous et 8 photographes. Donc, voilà, on n'était plus dans une relation 1-1. Donc, ce qui fait que, dans, par exemple, là, un photographe se retrouve avec 3 écrivains. Mais justement, c'était intéressant parce que comment... Qu'est-ce qui pouvait se créer maintenant une relation avec un photographe et 3 écrivains? Donc, par exemple, je parle du cas de Celsor Herrera Nunes, qui était le photographe franco-chilien, et trois jeunes femmes qui étaient toutes en lettres modernes et qui ont décidé d'écrire. Alors, là aussi, c'est intéressant la commande, parce que le frottement, parce que par exemple, Celsor Herrera Nunes, il avait passé un travail de commande aux 3 jeunes femmes. Voilà, tu m'écris à la manière de... voilà. Donc, elles ont dit non, non, nous, on n'est pas... non. On va créer avec toi et on va essayer de créer ensemble. Voilà. Donc, par exemple, il est sorti très, très irrité hein, de cette expérience. Et il est, même encore, j'ai discuté avec lui, il n'a pas apprécié. Mais bon, ça fait partie aussi du projet. C'est que, voilà, c'est la rencontre, la discussion, et voir, sans doute, c'est un photographe qui préfère faire des photographies seul et avoir demandé à un écrivain d'écrire un texte de son côté et la rencontre se fait ou ne se fait pas. Mais ça, c'est pas notre objectif. Et là, donc, pour Celsor Herrera Nunes, alors ça, je l'ai en PDF, je vais vous le montrer. Puis après, je vous parlerai d'un autre cas intéressant de Thibaut Croisi et Ophélie Coelho. Donc oui, il était avec Ariane Carmignac, Julia Chardavoine et Amélie Linhart. Alors pour la petite histoire, Ariane Carmignac a passé, parce que ça aussi, ça m'intéresse beaucoup avec Olivier Faron, c'est qu'on a des élèves prototypes. Alors au départ, on les comptait sur une main. Maintenant, c'est beaucoup de mains. Et ce sont ces élèves qui passent le concours d'entrée de l'école et aussi le concours d'entrée d'une école d'art. Et on essaie de trouver le moyen pour qu'ils suivent les deux cursus. Et donc, Ariane Carmignac a réussi le concours d'entrée à l'école et aussi celui de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Voilà. Donc on a réussi à, elle a fait son cursus à Arles, puis après elle est revenue à l'école pour faire son cursus à l'école. Donc Ariane, Julia et Amélie, elles ont proposé à finalement, dans la discussion avec Celsor, elles ont décidé, à partir d'une image, de présenter un même test, mais avec des styles d'écriture différents. Donc ça, c'est le style de Celsor et Aaron Nunez. Donc vous voyez, il prend une personne individuelle à une certaine heure du jour, d'où cette ombre, d'où ce fluide, et dans différents pays, le Portugal, la France, les États-Unis ou le Chili. Et toutes ces personnes, si on regarde bien, elles sont pas si ordinaires que cela. Donc, je vais prendre juste une photographie qu'il a faite au... D'accord, oui, bien sûr. Une photographie qu'il a faite au Portugal, d'un petit enfant dans un bidonville ou un no man's land. Et donc, elles ont proposé trois lectures possibles de cette image à travers l'écriture. Alors, quelque chose d'horrible, annonce de location Portugal appartement pour des bobos français. Cliquez ici pour réserver, un extrait d'un entretien, lundi 22 mars, France 12, courir. Donc, en gros, on peut le lire ensemble, mais c'est tout simplement le rêve de tout enfant pauvre, c'est de devenir riche, et c'est vrai que le football est formidable dans ces pays. Donc là, en gros, c'est courir contre et non pas avec. C'est un peu ce que nous propose Celsor Eduardo dans ce documentaire qui fait retour sur la disparition d'un petit garçon au Portugal lors des préparatifs de la demi-finale de la Coupe du Monde de football 2006. Mêlant images d'archives et témoignages, le film provoque un télescopage troublant entre une histoire encore présente dans la mémoire collective et un drame anonyme, passé sous silence à l'époque, dans un va-et-vient traité comme une sorte de clair-obscur entre une liesse populaire passée, l'oubli joyeux d'un pays et la mémoire douloureuse des proches du disparu. Il réussit à créer une tension forte tout en questionnant avec subtilité la notion même de fait divers. Voir notre interview du réalisateur, page 82. Donc, si vous avez tous saisi que là, ce travail d'écriture fait comme si c'était un vidéogramme, que c'était extrait d'un documentaire. Et l'autre proposition, alors vous voyez, aucune n'a signé. On ne sait pas qui a écrit qui entre les trois jeunes femmes. Et la troisième proposition, c'est un entretien entre une journaliste et Pablo. Donc voilà, donc le journaliste, dis-moi Pablo, qu'aimerais-tu faire plus tard? Jouer au foot comme Ronaldinho dans mon équipe je connais pas cette équipe, et avoir le même moto que le grand Carlos. Tu voudrais vivre en ville, gagner beaucoup d'argent? Non, ça va ici. C'est bien, on a un petit ballon en mousse. Manuel a même gagné un filet pour faire les buts. Et puis, le terrain vague est grand. Il y aura la place de faire venir le public. Si je pars trop loin, je verrai plus Mishka. C'est qui? Mon rat. Tu vas souvent à la ville? Alors là, c'est à l'école parfois. Pour le curé aussi? Il me donne un bonbon plat sans goût si je lui raconte mes bêtises. Maman m'a obligé à aller le voir quand j'ai volé une vignette à l'école. Une fois, on a rendu visite à un grand monsieur habillé tout en blanc qui m'a gratté la tête et fait des piqûres. Il était gentil. Il a demandé à maman de m'acheter un bout de viande. Donc vous voyez, on a le prêtre, le médecin, et à travers ce travail d'écriture, c'est... Donc vous voyez, c'est à partir d'une image, ça permet de générer trois types de fictions différentes pour ces élèves. Elles étaient toutes les trois en lettres modernes.
Voilà. Excuse-moi, est-ce que c'est les cours de Jean-Marie?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Très fortement influent dans Jean-Marie Glaise.
Voilà. Parce que oui, ce que j'ai précisé tout au début, c'est ce projet est associé sur les enseignements artistiques et le centre d'études poétiques. Et à l'époque, sur les trois premières éditions et même la quatrième, c'est à la tête de ce laboratoire de recherche, c'est Jean-Marie Glaise, qui est un poète qui a une spécificité, la littéralité, et donc qui cherche le mot pour le mot, qui refuse le baroque, qui refuse le lyrisme, c'est le chien noir de la prose, la nudité intégrale, donc il y a presque un travail de comment dire,
vidange.
Oui, voilà, voilà, d'évacuation des mots, de voilà, de rechercher juste le mot. Tout à l'heure dans Trafic, je vous montrerai un exemple où là, l'élève a dû vraiment enlever le maximum de mots pour ne garder que l'essentiel. Voilà. Mais ça apporte aussi aux photographes ce type de réflexion, parce qu'en même temps, ils se rendent compte que l'écriture, c'est pas seulement un commentaire de son image, mais ça peut produire un sens. Ça peut produire une image aussi, une image. Donc, un autre exemple, oui, ça va être Thibaut Croisi au Philippe Coelho, parce qu'il est assez sensible, ce travail. C'est Thibaut, c'est un étudiant en études théâtrales. Il fait des mises en scène très provocatrices. Il met, par exemple, en scène Ritz de Greenberg. Vous savez, c'est une pièce où tout est basé sur l'ambiguïté. C'est une scène qui se passe dans les banlieues, dans les banlieues des grandes villes. Et c'est le héros de cette pièce, entre guillemets, parce que le mot héros est un peu galvaudé, le personnage central. Et est une sorte de beauf des banlieues qui a une carabine et il y a du bruit, on vole sa voiture et il va prendre sa carabine. Et il a des propos très frontistes, etc. Mais le problème dans cette pièce, c'est qu'on ne sait pas s'il prend parti, si Jean-Claude Greenberg prend parti pour le personnage. Il n'y a pas un discours critique dur. Voilà, on ne sait pas si c'est une valorisation de ce personnage ou s'il est contre ce personnage. Donc, voilà. Et bon, à travers la mise en scène provocatrice de Thibaut Croisi, on saisissait. Alors que, vous voyez donc le type de personnage qu'est Thibaut Croisi. Alors que Ophélie Coelho, c'est une photographe très, très sensible qui va aller dans un centre d'enfants non-voyants et elle va les photographier, mais dans leur quotidien de ce centre. Donc vous voyez, là on a, ou dans les ouvrages qui circulent, vous avez là par exemple deux enfants. Donc vous voyez qu'on a du mal quand même à distinguer qui sont aveugles ou non-voyants. Ils pourraient être au centre aéré là. Pas forcément. Bon, même s'il y a certaines attitudes qui peuvent nous laisser croire que... Mais ça pourrait être des autistes d'une certaine d'une autre manière. Pas forcément des non-voyants. Et Thibaut, alors là, ça a été aussi une relation assez rude. C'est que Thibaut, lui, il va plutôt... il va écrire sur ce que c'est que voir, sur la notion de mirage. Donc, il va, vous voyez, là, il va prendre la définition dans Le Petit Robert de mirage. Et c'est assez pertinent parce que il rappelle les trois considérations du mirage. Donc, on va enlever l'avion de guerre. Mais, par exemple, la deuxième, c'est illusion, apparence séduisante et trompeuse, illusion, mensonge, les mirages de la gloire, du succès, des petits mirages quotidiens, le délicieux mirage d'amour. Donc, en citant Pierre Loti. Mais, vous voyez, il va... alors là aussi, on voit l'affluence de Jean-Marie Glaise, mais au lieu d'enlever les mots, il va les raturer. Et on ne gardera que les mots qui pourront avoir une signification par rapport à ce garçon qu'on voit sur l'autre image. Et par contre, c'est lui qui a fait la note. Et ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez, on ne sait plus qui écrit. Si c'est pas le petit Robert dans la note, c'est lui. Mais il écrit « Le mirage n'a rien de subjectif. Il est possible, par exemple, de le photographier. Le mirage n'a rien d'irrationnel. Il s'explique par l'optique géométrique et les lois de la réfraction. Il ne participe donc pas d'une illusion optique, mais d'une réalité optique. » Donc, vous voyez, moi, je trouve que là, c'est assez complexe. Parce qu'on est sur la réalité, mais bon, l'intervenant d'hier ne pourrait nous expliquer, là. Voilà. Mais, voilà. Et donc, tout le travail de Thibaut, ça va être de ramener ses enfants à une relation comme ça et à travers un processus d'écriture théâtral. Et là, par exemple, c'est très dur aussi parce que c'est une mère qui écrit à sa fille, mais elle l'appelle « ma très très chère pupille ». Donc ça pourrait être aussi l'enfant qui écrit à sa pupille manquante. Donc il faudrait prendre le temps de lire cette lettre, mais elle est assez dur. Mais finalement, ils ont réussi à s'accorder pour que, la provocation de Thibaut ne casse pas la finesse, on va dire, des images d'Ophélie Coelho. Après, un autre exemple, c'est par exemple Dorian Beer, qui est théolète moderne, mais aussi japonisante, et Stéphanie Kubens, qui était la photographe, et qui a fait des photographies sur le Japon, mais qui ne maîtrise pas le japonais. Donc, vous voyez, ça peut être une influence de connaissance. Là, Dorian va expliquer à Stéphanie que quand elle photographie telle ou telle image et les idéogrammes, elle ne les maîtrise pas, ce que ça signifie. Et donc, et après, là, par contre, je trouve que, après les partitions, ça, c'est elles qui l'ont fait ensemble. Donc, vous voyez, quel est le sens de lecture? Et donc, à vous de le trouver, voilà. À cadence régulière, Mais c'est toute une phrase. Là, elle a mis dans la définition de l'encyclopédia universaliste du calligramme, la calligraphie du calligramme, si on regarde. Là, c'est assez particulier. Stéphanie a photographié tous les distributeurs de boissons qui se trouvent dans les stations de métro à Tokyo. Et Dorian a fait a repris le chemin, le trajet, le plan de métro. Et a mis dessus des phrases, et des mots en japonais aussi. Et là, je trouve que c'est très abouti, ça a servi de carton d'invitation. C'est qu'il y a tout un travail sur cette image autour de l'écriture noire, de plein de Roland Barthes à Baudelaire ou Rimbaud. Il y a un certain nombre de phrases qui ont. Voilà. Donc là, on était à 282 km x 2. Donc vous voyez, en plus, c'est assez intéressant parce que là, ils ont choisi un titre elliptique. C'est la distance entre les deux écoles. Et nous, on s'est retrouvés aussi parce que pour une école de lettres, eux, une école d'images, des nombres, c'était aussi une sorte de terrain neutre sous cette ellipse. Et ce qui nous a intéressé, parce que c'était pas évident au départ d'expérimenter ce projet sur l'hybridation entre écriture et photographie, parce que c'est un projet, vous le savez tous, cette relation, elle est presque naturelle. Mais faire quelque chose d'inédit et d'expérimental était un peu, était un peu casse-gueule, entre guillemets, si je peux me permettre cette grossièreté. Mais là où on était content, c'est que des institutions étrangères ont remarqué le projet. Alors ce travail, après l'exposition, ça a été montré à la nouvelle galerie de la bibliothèque municipale de Lyon-Part-Dieu. Et alors là, je vous parle des livres et des partitions, mais je vous ai pas parlé des expositions. Alors comme il y avait un certain nombre de reportages faites sur ces expositions, je pensais vous les montrer, mais je pourrais l'évoquer. Je peux vous évoquer pour Marie-Amélie Tondu, qui est à la fin. Et là, c'est une vidéo. Donc la difficulté de la vidéo, de mettre la vidéo dans un livre, dans une exposition, c'est plus facile. Alors elle est où, Marie-Amélie Tondu? Voilà. Là, de nouveau, c'est Ariane Carmignac, mais seule, qui a travaillé avec Marie-Amélie Tondu. Donc, Marie-Amélie Tondu a fait une vidéo sur ce que c'est qu'être adolescente de nos jours. Et elle s'est intégrée à un groupe d'adolescentes, mais elle s'est effacée derrière. Et elle a montré la vie de ces trois adolescentes, et une plus particulièrement. Et là, dans l'exposition, elles ont conçu de faire une installation, mais de recréer une chambre d'adolescente. Voilà. Et donc, par exemple, cette image devient un poster dans la chambre de cette adolescente. Et bien sûr, cette adolescente a un poste de télé, et sur ce poste de télé est montrée la vidéo, la fameuse vidéo, avec des couleurs girly, on va dire, entre guillemets. Voilà. Oui, un autre cas aussi, c'est intéressant, Rodolphe Baquet et Christophe Navajoli. Là, c'est l'acceptation par le photographe que celui qui n'est pas photographe puisse intégrer ses photographies. Rodolphe fait de la photographie parce que, comme vous avez compris, je m'occupe des projets images à l'école. Et la première chose, parce que ce matin, on a évoqué la disparition des formes artistiques. Moi, j'aurais aimé aussi entendre ce matin par rapport à la photographie argentique. Voilà. Et voilà, Kodak, depuis le 31 décembre 2010, n'existe plus quand même. Hein. Donc 20 ans disparus. Hein. Moi, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à l'École normale supérieure de Lyon, ça a été de recréer un laboratoire de photographie argentique. Donc on en a un. Et nos élèves, Rodolphe par exemple, a voilà, participé au laboratoire argentique. Et donc, de retour de ses voyages, donc là, vous voyez, la photographie en Inde, c'est de Rodolphe. Et la gageure, ça a été de, par exemple, là, d'avoir un découpage. Les deux photographies en noir et blanc sont de Rodolphe Baquet et les trois autres de Christophe Nevet-Joly qui s'intéresse à la Corée et qui maintenant vit en Corée. Donc, c'est aussi cette acceptation aussi que dans une école d'art, un photographe qui, c'est sa formation, c'est son devenir, accepte que quelqu'un qui n'est pas de devenir photographe, puisse mettre aussi ses images dans une partition. Puis bon, après, on peut préciser les différents appareils photographiques argentiques, la chambre, voilà, qui permet un temps de pause lent, et aussi les appareils qu'on porte au niveau du nombril. C'est important, c'est qu'on regarde par le bas et voilà, le sujet observé n'est pas, la vision du monde n'est pas la même que quand on regarde tous les appareils numériques, on se regarde là, frontal, directement vers l'autre. Voilà, et Pierre Bourdieu n'aurait pas pu faire les mêmes images en Algérie s'il avait eu un appareil numérique et pas un appareil sur le nombril. Voilà. Mais en même temps, j'ouvre une autre parenthèse, voilà, je me permets, parce que on sait pas. Ce matin, j'ai bien aimé le propos de Monsieur Gervereau sur le fait que les dispositifs artistiques, les techniques hein, disparaissent, mais réapparaissent. Et on ne sait pas encore comment va réapparaître l'argentique. Hein. Pour l'instant, ça devient des raretés. Par exemple, les vieux appareils photographiques des pays de l'Est, comme le Olga, qui focalise au milieu et il y a cet halo de flou autour. Très très à la mode en ce moment, voilà, parce que c'est la rareté, c'est le mouvement de balancier qui s'inverse. Mais pour moi, c'est pas une réapparition sous une autre forme. Pour moi, c'est par exemple quand il a évoqué cet indice, c'est par exemple les vitraux. On avait l'impression qu'on en faisait peu, à part Pierre Soulages à Conques, mais sinon. Ben, contrairement, le vitrail est réapparu à travers le téléphone portable. Parce que c'est une image rétro-éclairée, le téléphone portable. Certes, ce n'est pas de la lumière naturelle, mais c'est de la lumière artificielle. Et on voit l'image derrière de la lumière. Et c'est, pour moi, c'est une forme de vitrail. Et avec la simplification, parce que le vitrail, c'était pour expliquer la Bible pour les non-lettrés, hein, le chemin de croix. Et ce matin, on parlait que des images vont en Amazonie, etc., mais des images commerciales. Et c'est aussi une simplification du message. Donc, il y a aussi une correspondance entre le médium et le message, là. Pour moi, entre le vitrail et le téléphone portable. Bon, pour continuer sur... voilà, je referme la parenthèse. Mais pour... donc, voilà, on était à 282 km x 2. Et ce qui nous a un peu... parce que tout ça est expérimental, hein. Et même si ça rentre dans des cursus, ils sont des ECTS, et nos élèves, et à l'école d'art, avec les réformes, vous savez, les réformes du LMD, etc., ils doivent aussi faire des masterisations. Ce qui nous a intéressé, nous, c'est qu'on est deux écoles franco-françaises. On a réussi à s'entendre et à mettre en place ce projet. Alors, nos tutelles, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture soutient. Voilà, c'est dans un projet AERS aussi. Mais ce qui nous a enchanté le plus, c'est le jour où une conservatrice du musée de l'Élysée, qui est un musée dédié à la photographie à Lausanne, parcourt l'exposition de 182 km x 2 et trouve ça intéressant et demande aux deux écoles si elle peut le remontrer dans son musée. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se crée, parce que c'est pas seulement un exercice pédagogique, etc., si c'est à la base, c'est ça, mais c'est aussi un élément, il y a un côté expérimental. Donc c'est pour ça qu'on a continué, parce que on savait pas si on allait conserver ce projet. Et donc, on est reparti sur une troisième édition. Donc, cette troisième édition s'appelle Trafic. Là, j'ai beaucoup moins d'exemplaires, hein, donc voilà, mais que 282 qui circulent. Donc, trafic, ça a été une relation 7-7, là, avec des variations. Mais par exemple, voilà, il y a les mots de Florence Jaillet, parce que la difficulté, vous voyez, même à l'école, monsieur Faron, hier, disait que, oui, on va recruter un professeur d'université en histoire des arts, plus, voilà, pour la préparation à l'École nationale du patrimoine. Mais sinon, nos enseignants aussi, en art plastique, fluctuent assez souvent, hein, moi, c'est, voilà. Donc, on avait Marie Gautron les deux premières années, on a eu Florence Jaillet, donc là, c'est le propos de Florence Jaillet, Gabriel J. Et là, cette année, j'ai encore une nouvelle enseignante, Ada Ackerman. Donc, mais par exemple, vous voyez, dans Trafic, Florence a expliqué un peu avec ses mots le dispositif pédagogique que vous trouvez sous ces mots, les rencontres qui se créent. Et comment ça se crée, l'exposition Jalon à l'espace Van Gogh, voilà. Mais peut-être déjà, avant d'entamer je vous parle de cette troisième édition, et puis après, je vous laisse la parole aussi, puis qu'on ait une interaction. Parce que normalement, c'était un atelier, donc... Oui. Oui, parce que la difficulté qu'on rencontre avec les photographes, c'est que... Eux, ils attendent qu'on commente leur image. tout au départ. Voilà. Et on leur explique, non, c'est un travail de création... Voilà, donc on va partir des connaissances en philosophie, en géographie ou linguistique, mais en aucune manière l'élève de notre école est là pour écrire, pour servir, il ne fait pas un travail de critique, de commentaire. Il fait un travail vraiment, donc il se met sur le même piédestal que le photographe, en disant, voilà, mes mots ont autant de poids que tes images, et on va hybrider les deux, on va travailler ensemble pour créer quelque chose ensemble et une partition. Alors après, ça dépend des binômes, hein, comment ça se passe, etc. Par exemple, là, voilà, je vous parlais de l'Olga tout à l'heure, de l'appareil, là vous en avez des reproductions, donc Laetitia Fabreau utilise un Olga, donc ça fait cet effet, voilà, quand elle travaille sur l'Égypte. Là, on est sur les questions du genre, par exemple. Vous voyez, là, c'est assez intéressant, parce que toutes les deux, elles se sont retrouvées parce que dans les photographies, il y a cette indétermination chez Camille Entratis, et Elodie Mott travaille sur les super-héros. et là, par exemple, elle a écrit un test où vous voyez que c'est le même test à quelques phrases prêtes, mais le L est passé sur le il. Donc, on pourrait dire que le « L » c'est masculinisé et que le « il » c'est féminisé, voilà. Vous voyez, sur le type de photographie de Camille Entratis, c'est entre deux. Là, cette personne de dos, on pense que c'est plutôt une femme, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà. Et puis alors là, c'est vraiment... Alors, c'est une divinité aztèque, hein, c'est pas... c'est pas carnaval. Voilà. Et idem, par exemple, là, on a un autre cas, Clément Bondu et Gilles Portier. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est que tous les élèves aient la difficulté. Parce que pour Jean-Marie Delaize, là, Clément Bondu, c'est quelqu'un qui vient du théâtre, qui fait un conservatoire et qui fait du slam. Voilà. Donc, c'est pas du tout les pratiques de Jean-Marie Delaize. Mais vous voyez, donc, il va travailler avec Gilles Portier, qui fait une série qui s'appelle Le Château, en référence à Kafka. Et... Donc, c'est des grandes photos noir et blanc. Vous voyez là, juste une qui n'est pas découpée. Donc, une piscine renversée à la verticale, piscine en plastique à verticale. Et ils vont s'entendre et, comment dire, vous voyez que l'écrit est mis comme s'il était slamé, entre guillemets. Voilà. Donc, on le lit, ce matin, le désordre des linges, voilà. Et donc là, par exemple, l'image d'un néon a été découpée pour accentuer ce côté linéaire. Oui, alors là, c'est un cas qui était dans une impasse. Vincent Zonka, Émilie Lucas. Donc, ils arrivent à... Parce que Trafic, c'est assez, assez révélateur. S'ils ont décidé de ce titre, c'était pour montrer, comme sur une autoroute, on avance, on freine, on peut aussi avoir des accidents. C'est ça, au premier sens du terme, trafic. Voilà. Et c'est suite aux expériences, par exemple, donc de Vincent Zonka et Émilie Lucas, qui proposent à l'exposition Jalon un projet mais ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à... ça tient pas la route, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et Amélie Lucas a une résidence à New York, elle part, et ils vont redéfinir leurs règles du jeu après cet échec. Et donc, ils vont travailler de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, elle va faire des photographies des quartiers. Alors, elle travaille sur les questions d'échelle. Et donc, avec son briquet, elle va mettre le briquet dans différents endroits de New York sur des questions d'architecture, vous voyez, mais qui sont dans, la symbolique new-yorkaise sur les bouches d'égouts, certains éléments d'architecture typiquement new-yorkais. Et lui, il va lui répondre par mail. Et en gros, c'est le mail. Ils vont garder le support courrier électronique pour l'écriture. Vous voyez. Et finalement, ils vont beaucoup plus avancer, mais c'est parce que du fait de leur échec. Là aussi, cette image aussi est assez intéressante. Il y a ce briquet dans un graffiti avec le cas, et Vincent va juste localiser, et c'est vraiment la localisation du briquet à New York avec la bonne latitude, longitude. En très peu de mots, il synthétise le propos d'Amélie Lucas qui travaille sur les questions d'échelle. Là, après, ce sont des images d'une vidéo. Alors, tout à l'heure, oui, pour dire le poids de Jean-Marie Delaisse sur les questions d'écriture, par exemple, on va prendre là ce chien qui est photographié comme s'il était accroché. Et là, il y a eu tout un travail de plus de 3 mois sur l'écriture pour que Jeff Barda arrive à cette simplification et ne garde que l'essentiel pour dire, localisé sous sa peau, j'entendais une sensation de brûlure, des muscles se tordre, une simple rétraction, le chien allait tomber, l'image avec. Voilà. Mais ça n'a pas été d'un premier jet, ça a été un gros travail d'écriture avec Jean-Marie Delaisse et puis aussi Florence Jaillet. Donc voilà, et donc là on varie aussi les lieux d'exposition. Donc c'était là où sont conservés les manuscrits de Roland Barthes et d'autres écrivains ou universitaires à l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines. Donc on était voilà. Mais je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser la parole.